Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, willkommen. Bienvenue dans Vue d'Allemagne, votre magazine qui s'intéresse au pays le plus peuplé de l'Union européenne avec ses 83 millions d'habitants. Magazine qui, en seconde partie, vous fait voyager aussi chaque semaine. Direction Lisbonne, tout à l'heure.
Et je trouve vraiment intéressant de constater que parce que moi j'ai voulu lancer un commerce, d'autres apparaissent. Petit aussi, mais ça bouge, ça bouge.
Ça bouge, ça bouge, et les Portugais retrouvent le sourire après la terrible crise économique qui les a frappés. On ira donc à Lisbonne dans quelques minutes. Hugo Fletatalon, micro, aujourd'hui, bienvenue à tous. Mais d'abord, on s'arrête en Allemagne donc avec un débat qui a pris de l'ampleur récemment. Faut-il interdire le voile aux jeunes filles musulmanes ? Ce voile que portent les croyantes sur la tête, aussi appelé parfois foulard ou hijab. La proposition a été faite par une ministre dans la région de Rhénanie du Nord, dans l'ouest du pays. Alors elle ne veut pas l'interdire à toutes ni partout, mais l'interdire aux jeunes filles de moins de 14 ans à l'école. Il faut protéger les fillettes de la volonté de leurs propres parents, dit la ministre. Le débat est lancé un an après l'interdiction déjà du voile pour les fonctionnaires. Un débat salutaire pour certains, il poserait de bonnes questions. D'autres battent en brèche, rappelant que la question ne concerne que très peu de fillettes et que c'est au directeur d'école de régler la question et non à la loi. Alors, quoi qu'il en soit, Vue d'Allemagne en profite pour se glisser à l'école allemande cette semaine et pour mieux comprendre quelle place y tiennent les confessions. Alors, avant de commencer, il faut savoir que l'Allemagne compte trois religions principales. Un peu moins de 30% des habitants sont catholiques, à niveau presque égal. Un peu plus de 25% sont protestants. Et 5%, le chiffre est là en hausse constante, sont musulmans. Avec de très grosses différences entre l'Est et l'Ouest du pays, puisque même si l'Allemagne est réunifiée, les habitants de l'Est continuent à être près de la moitié à ne déclarer ne pas croire en Dieu. C'est seulement un habitant sur 10 environ à l'Ouest. Vous le voyez donc, la différence est assez énorme. Pour parler donc religion et milieu scolaire, nous recevons cette semaine Klaus Nidit. Il est rédacteur en chef du journal hebdomadaire du diocèse de Freiburg dans l'ouest de l'Allemagne. Et il nous situe d'abord la place de la religion en Allemagne. La République n'a pas de religion officielle, mais les cultes coopèrent avec l'État.
Ça fait partie du système, ce qu'on appelle, avec un terme de la doctrine sociale de l'Église, subsidiarité. Ça veut dire que l'État allemand dit, c'est pas moi qui fais tout, qui doit faire tout dans le domaine social, mais quand il y a des institutions privées qui font une offre sur ces domaines-là, ils peuvent le faire, je le financie d'une certaine façon. Ainsi, on a un secteur très grand privé, et dans ce secteur privé, les deux grandes églises, l'église évangélique et l'église catholique, sont les plus grandes institutions. Par exemple, les églises sont les institutions avec à peu près 1,4 million employeurs. Par exemple, dans le domaine de la diaconie, la caritas, dans tout le domaine social. Mais ce n'est pas une exception pour les églises, c'est un système qui privilégie des institutions privées. Il y a par exemple aussi des institutions des syndicats, n'est-ce pas ? Ils sont aussi engagés dans ce domaine social, mais en général, ils sont moins grands que les églises. Et les églises gèrent des écoles, des centres de renseignement, centres pour les vieux, des jardins d'enfants, tout ça. Donc tout le domaine, les églises sont vraiment des grands players dans le domaine social.
Alors les confessions présentes dans la société, les croyants paient des impôts religieux d'ailleurs, et la religion présente aussi à l'école avec des cours de religion. Alors comment fait-on ? Est-ce qu'on met les catholiques au rez-de-chaussée, les musulmans au second et les protestants au troisième étage, Klaus Nidit ?
Ça dépend de la réalité du lieu, mais en général, la matière religion, donc ça fait partie du tableau des élèves. ils ont des cours en mathématiques, en français ou en anglais, et ils ont des cours en religion. C'est pas la catéchèse. La catéchèse, c'est fait dans les paroisses. Les cours de religion sont faits dans la responsabilité des professeurs qui ont une sorte de mission de leur église, mais on parle aussi, par exemple, sur la religion, les religions. On parle dans la matière religion catholique, par exemple, sur l'islam ou sur le bouddhisme ou sur le développement des confessions en Europe et partout dans le monde. C'est très, très vaste. Il y a beaucoup de sujets. On fait naturellement, on lit la Bible, on fait l'exégèse de la Bible, on fait l'exégèse de l'histoire religieuse en Europe et ailleurs. Et on parle aussi des religions. Ça fait aussi partie de la matière de la religion à l'école. Il y a naturellement le droit de quitter aussi la matière religion. Quand des parents ne veulent pas, ils indiquent ça à l'école. Et dans quelques länder, à ce moment-là, les élèves font des cours supplémentaires dans une matière qui s'appelle philosophie ou
éthique.
Ça dépend des länder, n'est-ce pas?
C'est important selon vous, ces cours? Vous dites, on parle de toutes les religions, on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs.
On a dans un monde globalisé ou mondialisé, si vous voulez, on a aujourd'hui une situation d'une pluralité religieuse. Et c'est différent, n'est-ce pas? Moi par exemple, je viens d'une région très catholique au nord de l'Allemagne. Aujourd'hui, on a l'islam comme facteur. Et c'est un changement dans l'atmosphère religieuse en général. Et il faut préparer les élèves à ça. Il faut avoir un discours raisonnable sur qu'est-ce que c'est que ça la religion, qu'est-ce que c'est que ça le fondamentalisme, l'extrémisme, et tout ça, ça fait partie de la matière religion quand il est fait vraiment d'une façon professionnelle.
Voilà, reste que certains soulignent toutefois le poids des confessions dans l'école qui serait trop important. Des associations athées ou agnostiques se sont même battues pour avoir le droit de proposer leurs cours en lieu et place de ceux de religion dans certaines écoles. Elle dépasse d'ailleurs les frontières de l'Allemagne. Le voisin belge a récemment introduit des cours de citoyenneté dans ses programmes qui peuvent remplacer les cours de religion. Je remercie Klaus Nidit, rédacteur en chef du journal Konrad Blatz à Freiburg, le journal du diocèse de Fribourg dans l'ouest de l'Allemagne. Merci à lui d'avoir participé à Vue d'Allemagne aujourd'hui.
Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam.
Allez, on part maintenant au Portugal. Ce petit pays de 10 millions d'habitants au sud de l'Europe a fortement souffert de la crise financière mondiale récente, notamment entre 2011 et 2015. Près de 20% de chômage, une dette phénoménale. Le pays a dû être aidé à hauteur de 78 milliards d'euros par l'Europe et le FMI, avec les plans de rigueur imposés à la clé dans ces cas-là. Et en 2015, à la surprise générale, c'est finalement un gouvernement socialiste soutenu par l'extrême gauche qui décide de mettre en route une politique de relance par le pouvoir d'achat. La croissance et la confiance revenant aussi en Europe, le Portugal semble aujourd'hui désormais tourner le dos à l'austérité. À Lisbonne, les terrasses se remplissent, on fait désormais des affaires. Marilyn Darcy nous raconte cette vie qui a repris sur place.
À peine sortie du célèbre tram 28 à Graça, au cœur de Lisbonne, Elisa court rejoindre l'immeuble où elle doit laver la cage d'escalier. Employée comme femme de ménage, elle est désormais jeune, pré-retraitée, mais arrondit ses fins de mois en faisant quelques extras. Elisa, comme beaucoup d'autres Portugais, a souffert de la crise. Aujourd'hui, elle considère que tout va beaucoup mieux.
Et si, pas qu'ils annoncent. Pendant des années, on nous a supprimé nos primes de 13e et 14e mois. C'était vraiment difficile. Maintenant, ils les ont rétablies, alors ça va un peu mieux. Les employés, les retraités avaient été ponctionnés. Ça va aller de mieux en mieux, j'en suis sûre. Si ceux qui nous dirigent se maintiennent au pouvoir. Mais si on doit revenir à l'autre gouvernement, alors on tombera au fond du puits. Ça a été très dur.
Les salaires portugais sont versés sur 14 mois pour compenser leur faible niveau, la moyenne des revenus étant de l'ordre de 800 euros par mois. Ponctionnés parfois jusqu'à 30% pendant la crise, les Portugais ont connu de graves difficultés. La relance du pouvoir d'achat par l'augmentation du SMIC et la suppression des impôts exceptionnels voulus par le gouvernement d'alliance de gauche a redonné de l'espoir et dynamise le tissu économique et social. Pedro Santos, facteur, rencontré pendant une opération de reboisement dans le centre du Portugal.
Au niveau financier, on a eu une bouffée d'air vraiment importante parce que, par exemple, le 13e mois, ça permet aux gens de s'acheter quelque chose ou de sortir. C'est vraiment important pour le pays car cet argent, on va le dépenser ici ou là et ça va permettre à des entreprises de tourisme de s'installer. Ça permet un développement économique et si on coupe la prime, on coupe tout.
Un percolateur, deux ou trois tables et un comptoir minuscule. La boulangerie de Claudia Bichou est une mini-entreprise à Lisbonne. Claudia est docteur en biologie moléculaire et sa boulangerie artisanale est une reconversion. La jeune femme vivait à l'étranger au moment de la crise, mais elle venait régulièrement au Portugal. Elle a une claire perception de ce qui se passe aujourd'hui.
On voit bien la différence. Il y a du monde dehors, bien plus qu'avant. Ça s'explique par le fait que les gens ont plus d'argent, c'est essentiel. Ils n'ont plus besoin de compter les centimes pour arriver à la fin du mois. La crise a sans doute épargné les classes les plus aisées, mais les classes moyennes l'ont bien senti, car les revenus ont baissé. Aujourd'hui, les gens pensent aux vacances, ils planifient le futur. Ce n'est plus comment on va faire pour boucler le mois.
Le chômage est repassé sous la barre des 8% au Portugal. Même si le chômage des jeunes et surtout la précarité restent préoccupants, la dynamique de l'emploi semble là. Claudia Bichot, la boulangère, est satisfaite de faire partie d'un cercle vertueux.
Je n'en avais pas conscience quand j'ai ouvert il y a 3 mois mon mini-commerce qui ne donne du travail qu'à moi-même. Mais dans la réalité, d'autres personnes se retrouvent impliquées, d'autres commerces voient le jour. Une entreprise a fait les travaux, j'ai acheté le matériel à une autre. Et je trouve vraiment intéressant de constater que parce que moi j'ai voulu lancer un commerce, d'autres apparaissent. Petit aussi, mais ça bouge, ça bouge.
Les Portugais ont le sentiment que le pire, la crise, l'austérité, est vraiment derrière eux. Ils ont retrouvé le sourire. Pour l'historien et analyste José Pacheco Pereira, c'est surtout le climat qui a changé.
Je ne pense pas qu'il y ait eu des changements drastiques, c'est l'ambiance qui a changé. En clair, il n'y a plus ce que j'appelle une perspective punitive qui a prévalu pendant quelque temps, du style « vous vivez au-dessus de vos moyens, il faut couper dans les dépenses ». Ce genre de langage et l'attaque ciblée dans certains secteurs comme les retraités ont cessé. Que cela veut dire que les salaires, les retraites ont beaucoup augmenté ? Non, mais les gens, après toutes ces années difficiles, respirent mieux. Et ça, en politique, ça n'a pas de prix.
Le Portugal soupire de soulagement, oui. Cependant, on se garde de tout discours triomphaliste. Les avancées sociales ne sont pas totales et la maîtrise des déficits reste essentielle. Le déficit est établi à 3% du PIB en 2017 en raison du soutien de l'État au secteur bancaire. Lisbonne le sait, sa marge d'erreur reste très étroite.
Marilyn Drassi à Lisbonne, sachez que récemment des politiques de gauche portugais se sont associés à des Français et des Espagnols pour lancer un mouvement européen. Ils veulent lutter contre l'austérité imposée selon eux par les traités européens. Ce n'est pas le premier appel en ce sens et en Europe, ils se sont multipliés surtout chez les politiques de la gauche radicale depuis la crise financière de 2008. Vous commentez, vous réécoutez, vous partagez ce magazine dans la médiathèque de la Deutsche Welle car c'est déjà la fin pour cette semaine. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez heureusement Anne Letouzé dans un nouveau numéro. Elle vous fera voyager et découvrir l'Allemagne, elle aussi. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Et comme on dit ici, alles Gute, portez-vous bien. Bis bald, à très bientôt.